Donc, bienvenue à cette première conférence débat dont le thème est Success Stories. Alors, pourquoi ce thème? Pour dire les choses vite, disons qu'il y a deux grandes approches, beaucoup auxquelles je n'apprendrai rien, mais un peu de pédagogie de toute façon ne fait pas de mal. Il y a deux grandes approches de l'économie. Il y a une approche qui est par grands chiffres. On considère les grandes entités, l'État, les entreprises, les ménages. On regarde les tendances, on fait des agrégats consolidés. Bref, c'est une approche, disons, macro. On a une deuxième approche où on considère le comportement individuel des acteurs, les incitations, la façon dont ils réagissent aux incitations. C'est une approche plutôt micro. Et bien, notre approche, aujourd'hui, ce sera une approche tierce. Ce sera une approche qui sera moins scientifique, moins académique. Ce sera une approche de l'économie comme un récit, comme une somme d'histoire individuelle, une somme d'histoire collective. Donc on perdra en scientificité par rapport à d'autres ateliers ou à d'autres conférences qui se tiendront dans le cadre de ces journées, mais peut-être qu'on y gagnera un petit peu en couleur à travers des personnages, des récits, des lieux, des situations, des éclairages psychologiques autant qu'économiques à proprement parler. Donc pourquoi Success Stories? Bah, tout simplement pour démontrer qu'à l'origine de la création de richesses, qui est le but de l'économie, qui est au moins un des buts de l'économie, il y a l'entrepreneur, c'est-à-dire en fait la prise de risque. Alors on n'est pas dans une perspective qui est une perspective irénique, béate, optimiste. On n'est pas dans l'économie dite bisounours, hein, qui consisterait à considérer l'entrepreneur comme une sorte de surhomme qui évoluerait dans un monde idéal. Quand on parle de success stories, on a à l'esprit qu'est-ce que c'est que le succès? Ben, c'est rien d'autre qu'un échec qui finalement est dépassé, ou alors c'est une opération qui, au bilan, fait apparaître une somme de réussite au moins un peu supérieure à la somme cumulée des échecs. Donc notre vision, elle ne sera pas manichéenne, elle sera pragmatique. Et je remercie les quatre intervenants de tout à l'heure d'avoir bien voulu livrer leur témoignage. Je cède maintenant la parole à Gérard Bonos, qui est journaliste, notamment à Radio Classique, et qui animera cette conférence. Merci.
Merci. Merci Jean-Damien Pau. Je baisse un peu le micro, on n'a pas franchement la même taille. Bonjour. En effet, on va parler de Success Story. C'est vrai que quand on prononce ce nom, on pense tout de suite aux grandes sagas. Il y a un petit côté un peu people, mais en fait, comme le disait Jean-Damien Pau, le succès, c'est avant tout aussi le regard qu'on porte soi-même sur son action. Alors c'est vrai que dans des périodes un peu tendues, comme celles qu'on est en train de vivre pour les mois qui viennent, j'espère que ça ne sera pas plus. C'est vrai qu'on va prendre pas mal de mauvaises nouvelles. Et là, le journaliste que je suis doit quand même un peu battre sa coulpe, parce que c'est vrai que très souvent, ben, on parle surtout des trains qui arrivent en retard, voire très en retard. Et puis, pourtant, à un moment donné, sur Radio Classique, on avait monté une rubrique qui a connu un bon succès, c'est-à-dire que pas mal de gens nous en parlaient, pas mal voulaient y participer, et ça s'appelait Histoire d'entreprise. Et pourquoi ça avait du succès? Tout simplement parce que c'était à l'époque, après la crise de 93, et les gens étaient un peu, il y a une espèce de langueur, une espèce de déprime un peu générale qui disait pas son nom. Et là, ils voyaient, on leur racontait des histoires, et comme on racontait l'histoire de quelqu'un qui était en place, qui agissait, comme les intervenants que vous allez entendre. Eh ben, il se disait, c'était donc le succès d'un parcours, puisque ce parcours non seulement avait été tenté, mais continuait d'exister. Et du coup, les gens qui eux-mêmes se sentaient soit menacés dans leur job, soit déjà malheureusement au chômage, se disaient, ben tiens, si ce type avec peut-être sa petite formation et son âge, il a pas plus de formation, plus d'expérience que moi, s'il y est arrivé. Ben, je peux peut-être y arriver. Et en fait, je crois que le véritable intérêt de raconter des success stories, au-delà du fait de raconter une jolie histoire, c'est peut-être ça la dimension exemplaire que ça apporte pour montrer que ce que l'un fait, on peut aussi le faire. Il faut juste avoir un peu de confiance en soi, enfin même beaucoup de confiance en soi. C'est pas tout, c'est pas suffisant, et bien sûr, les entrepreneurs qui sont là vont nous le dire, mais avant tout, c'est ça. Alors, on va voir, comme disait aussi Jean-Damien Pau, tout n'est pas dans le monde des bisounours et que ça se fait pas du jour au lendemain et dans, dans des conditions un peu trop faciles. Hein. C'est pas l'aventure de Paris Hilton, mais en même temps, l'aventure vaut d'être vécue, surtout qu'on peut la vivre dans des tas de domaines et des tas de positions complètement différentes. Il n'y a pas le salarié d'un côté, l'entrepreneur ou le patron de l'autre. C'est parfois beaucoup plus mélangé, beaucoup plus complexe. Alors, je vais vous présenter nos intervenants au fur et à mesure. Je leur demanderai un peu un petit préambule à chacun d'eux de manière à ce qu'ils nous racontent un peu leur, et leur parcours et leur regard qu'ils portent sur l'entreprise en fin de compte et sur l'idée de créer son entreprise ou d'être un entrepreneur dans, encore une fois, dans l'acception la plus large du terme. Et puis après, ben, un petit échange de questions. Mais je vous dis tout de suite, ce que je vous propose, c'est que la vie est un échange, c'est qu'on puisse échanger très très vite. Donc moi, je, comme tout journaliste, hein, vous en doutez, j'ai plein de questions et j'adore ça, mais vous serez toujours prioritaire. Si quelqu'un a une question à poser, même après les préambules, tout de suite, vous levez la main, une hôtesse vous a des micros à chef et vous pourrez poser votre question. En tout cas, vous serez toujours prioritaire sur moi. La seule chose que je demande, c'est de bien lever la main parce que j'ai des lumières un peu partout, c'est pas toujours évident. Voilà, maintenant je vous propose de tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Lucien Deveau, bonjour.
Bonjour.
Prenez le micro qui est devant vous. Alors, monsieur Deveau, vous dirigez l'entreprise Deveau, qui porte de votre nom. Elle a été créée en 1750. Alors ça, si c'est pas une histoire d'entreprise, je m'y connais pas, par François Deveau. Alors, à l'époque, vous fabriquiez, c'est vous qui me l'avez dit, hein, je suis pas, c'est ma culture, hélas, ne va pas jusque-là, du tissétain, c'est-à-dire des tissus écossais, Madras ou Vichy, mais de 1750 à 1960, ça a beaucoup, ça, visiblement, ça a bien duré. Vous avez pris les rênes du groupe textile en 67. Alors à l'époque, pour vous donner un ordre d'idée, mesdames, messieurs, l'entreprise à l'époque faisait 3 millions de francs de chiffre d'affaires, hein, donc 2 millions d'euros. Il y avait 80 collaborateurs. Aujourd'hui, Deveau SA, eh ben, il est leader de son secteur. Il pèse 150 millions d'euros, donc 1 milliard de francs, si je repars dans l'autre sens, de chiffre d'affaires et emploie 600 salariés. Alors par ailleurs, le groupe contrôle d'autres affaires textiles, qui réalisent ensemble un chiffre d'affaires de 480 millions d'euros, notamment dans la confection des costumes sous la marque Etche. Je ne sais pas si on dit Etche, monsieur Deveau, ou Etche. Voilà. Et la distribution sous la marque Armand Thierry. Et ces deux entreprises emploient 2600 personnes. Alors, on va peut-être condenser de 1750 à nos jours, mais ce qui m'intéresse bien sûr, c'est votre expérience et votre regard personnel, Lucien Deveau. Qu'est-ce qui s'est... Je précise aussi que vous êtes président de l'Union des industries textiles. Alors, comment s'est déroulée cette aventure 67 à aujourd'hui, disons 67-2007, et cette montée en puissance comme ça du groupe?
Je crois que d'abord, ce n'est pas une saga, c'est une chose, ça s'est passé tout à fait naturellement. Hein, si vous voulez. Donc je suis rentré dans le textile parce que c'était une affaire familiale, une affaire où on disait qu'on ne voulait pas la garder s'il n'y avait pas un successeur, et une affaire qui s'était endormie, si vous voulez, et qui n'était plus une belle endormie, c'était une endormie malade. Qu'est-ce que j'ai fait au départ? J'ai fait ce que n'importe lequel d'entre vous fera demain s'il a l'occasion. J'ai activé les feux et j'ai essayé de me partager, évidemment, dans les deux fonctions nécessaires à l'époque, qui étaient le commercial et qui était l'usine. Donc, première chose que j'ai fait, j'ai pris mes valises et j'ai essayé d'accélérer le commercial pour aller voir des gens et leur dire voilà ce que je vous propose. Et en même temps, arrivant à vendre, il fallait accélérer les usines. Donc on est passé d'usines qui tournaient à 8 heures par jour à des usines qui tournaient 24 heures par jour. Une usine très ancienne au départ, parce que le matériel, tenez-vous bien, datait de 1870, 1874 exactement, lorsque nous avions perdu l'Alsace et la Lorraine, et les affaires textiles de la région avaient vu arriver des fabricants de métiers à tisser qui, à l'époque, ne savaient pas à qui les vendre, donc qui avaient trouvé les entrepreneurs de la région et qui leur avaient dit, écoutez, on a des métiers à vendre, on a des usines à installer. Donc, ayant un vieux matériel, je l'ai fait tourner au maximum et ensuite je l'ai modernisé au fur et à mesure. Tout cela, c'est des échelons de 10 ans, dans un premier temps commercial pendant 10 ans à mort, et puis accélération d'usine 8 heures par jour, 24 heures par jour et 7 jours sur 7. Ensuite, le rachat d'usines, si vous voulez, malheureusement souvent en difficulté, pour compléter ces productions. Et ensuite, de passer d'uniquement d'un phénomène de tisseur, c'est-à-dire d'un phénomène d'assemblage de fils, à un phénomène de filière, parce que les affaires étaient d'autres affaires. La façon qui éteignait le fil, qui finissait le tissu, que nous avons acheté au fur et à mesure, parce que de 5% de leur production, nous représentions 60% de leur production. Et donc, nous avons monté la filière totale. Et les affaires que nous avons reprises, nous avons aujourd'hui 7 affaires entre Roanne et Lyon, si vous voulez, de production industrielle. Et à ce jour, nous n'avons jamais perdu d'argent depuis le départ.
Lucien Duvau, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on reprend une affaire, on se remet dans la position de celui qui crée une boîte, c'est-à-dire avec les mêmes interrogations? Ou est-ce qu'au fur et à mesure qu'on rachète, on se sent de plus en plus solide et ça ne joue plus de la même manière? Dans sa tête, hein, j'entends.
Personnellement, je pense que reprendre des affaires est beaucoup plus difficile, demande moins de moyens, donc c'était à ma portée, mais reprendre des affaires est beaucoup plus difficile parce que si ces affaires sont à vendre, généralement, et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous êtes dans un métier quand même difficile, ça prouve qu'elles sont en mauvaise santé. Et aujourd'hui, organiser une affaire, réorganiser une affaire, la relancer est un challenge beaucoup plus difficile que de monter une affaire ou d'accélérer une affaire.
Pourquoi ? Parce que là, il y a le poids des habitudes de cette entreprise, les gens qui sont sur place, le fait que s'ils sont en difficulté, le moral est un peu cassé, il faut relancer tout ça.
Oui, c'est tout, c'est des problèmes psychologiques, ce sont des problèmes matériels, parce que vous mettez du temps à découvrir. Quand vous êtes dans une affaire depuis un an, deux ans, et beaucoup plus ensuite, les rouages sont faciles, vous les connaissez tous, il suffit d'appuyer sur le bouton, vous savez, vous connaissez les gens, etc. Là, il faut réapprendre à connaître surtout ses collaborateurs, parce que ces entreprises, c'est des affaires d'hommes. Mais la chance que j'ai eue aussi, c'est que d'une entreprise, si vous voulez, de personnel, le textile était une entreprise de main-d'œuvre, si vous voulez, on est passé, main-d'œuvre, donc de la technique essentiellement, on est passé du matériel à l'immatériel, parce qu'aujourd'hui, dans nos affaires textiles, il faut savoir que la conception, le phénomène de faire des modèles, des échantillons, etc., la moitié de notre effectif est passé aujourd'hui à l'immatériel, alors qu'il représentait à l'époque 5% de nos effectifs. Donc on a changé de nature de métier.
Lucien Duvaucan, je disais, quand vous prenez les rênes de l'entreprise familiale en 67, elle pèse 3 millions de francs, donc 2 millions d'euros. C'est ça, hein, je crois. J'en sais, oui, c'est ça. Est-ce que vous disiez, je vais aller le plus loin possible dès le départ, ou est-ce que vous êtes dit, bon, là, l'entreprise, elle vivote, je vais la relancer, quand je serai, je dis, n'importe quoi, à 200 millions de francs, je m'arrêterai, ou à 150 millions de francs. Est-ce qu'on y pense à ça?
Je veux dire, simplement, c'est une étude de marché que vous faites, vous êtes le nez dans le guidon, hein, et tous les matins, il n'y a pas de grand plan, mais si on regarde après, on s'aperçoit que les grands plans étaient tous les 10 ans, hein, c'est-à-dire, vous faites du commercial, vous faites ensuite, si vous voulez, de la reprise d'affaires pour accélérer votre production, et puis ensuite, vous passez au stade où vous achetez du matériel d'occasion, des métiers ou du matériel qui a 4-5 ans, ensuite, vous achetez du matériel neuf, ensuite, vous apercevez que l'immobilier est obligé d'être changé et vous construisez de l'immobilier. Donc moi, j'ai fait, dirons-nous, toutes les 10 ans des grandes étapes pour être aujourd'hui avec du matériel qui a une moyenne de 4 ans ou 3 ans, matériel que je change tous les 3 ans, et un immobilier qui est entièrement neuf, si vous voulez, dans les systèmes. Mais tout cela, personne ne pouvait dire que ça serait fait aujourd'hui.
On va y revenir, bien sûr. Alors, il y a un autre entrepreneur, mais avant de Philippe Solar, mais avant de l'entendre, je voudrais passer la parole à Thierry Charles. Bonjour, prenez le micro. Vous êtes directeur des affaires juridiques d'Alizé Plasturgie, en fait, qui est un syndicat qui regroupe 700 entreprises dans le Grand Est, hein, dans les grandes régions Est et Sud-Est, PACA, Bourgogne, Rhône-Alpes, etc. C'est ça, hein ?
Tout à fait.
Alors, votre regard, justement, sur... donc, vous avez, vous, 700 entrepreneurs, 700 success stories potentiels. C'est quelque chose que vous ressentez vraiment, ça, cette dimension success story ou pas?
Alors effectivement, là, on vient d'avoir l'exemple d'une grande entreprise familiale avec une ancienneté et vraiment, vous avez l'exemple type d'une entreprise qui a traversé les âges. La plasturgie, ben, vous l'avez compris, c'est beaucoup plus jeune et surtout par rapport à la taille des entreprises, ce sont la plupart du temps des PME. Alors je dirais que la grande différence, c'est pour une PME de se remettre en cause pratiquement chaque matin. Donc le success stories pour une PME, c'est véritablement d'avoir une visibilité à plusieurs mois et de pas considérer qu'à partir du moment où on a un produit, il va vivre dans le temps. Vous êtes vous-même des consommateurs, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a une certaine versatilité au niveau de la consommation. On doit changer le packaging, on les marques, la durée de vie des marques aujourd'hui, elle n'est pas très très longue. Donc on est véritablement dans un enjeu de rupture. On ne doit pas se contenter d'avoir un produit, et a fortiori, si on est une entreprise de sous-traitance, là pour le coup, on dépend de grands donneurs d'ordre, on dépend du marché de l'automobile, de l'emballage, de grands donneurs d'ordre, Renault, Peugeot, L'Oréal, etc. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, c'est déjà en soi une difficulté. Et pourtant, je représente aujourd'hui effectivement un potentiel de plus de 700 entreprises qui réussissent parce que, alors c'est un classique, hein, small is beautiful, c'est vrai qu'il y a une possibilité, il y a une souplesse que n'ont pas certaines grandes entreprises, j'allais dire au niveau des hommes qui y participent, parce que là on peut parler des chefs d'entreprise, mais également de tous ceux qui participent à ce challenge, c'est une grande polyvalence. Je vais prendre un exemple que je connais particulièrement bien. Si vous prenez un métier dans la plasturgie, il est évident que si vous vous contentez en rentrant dans une PME de rentrer comme étant le spécialiste dans un domaine très particulier, vous avez peu de chances de rester, dans la mesure où pour une PME, peut-être que vous serez amené à faire tout un tas de jobs qui vous permettra d'évoluer. C'est un peu le même challenge qui attend le chef d'entreprise, de se remettre en cause et d'innover sans cesse, de trouver... Et je le répète, non pas une seule innovation, mais véritablement une innovation de rupture. Je prends un exemple très concret. Regardez ce qui s'est passé avec les cassettes VHS. Si vous aviez continué à faire des cassettes VHS alors que les autres faisaient des DVD, c'est bon, vous étiez mort. Alors la durée, c'est combien? C'est 6 mois, 1 an, etc. Mais de toute façon, le marché n'existait plus. Même chose, si vous commencez à avoir un marché qui n'a peu de valeur ajoutée, aujourd'hui, avec le problème qu'on connaît avec les low cost, il est évident que là-dessus, vous n'avez pratiquement aucune chance d'asseoir votre produit. Par contre, si vous avez un produit avec une forte valeur ajoutée et que véritablement vous mettiez le paquet, je dirais, sur une courte période, parce que vous serez de toute façon copié, là, vous avez une chance véritablement de la success story, à condition, chaque fois, de se remettre en cause.
Est-ce que les entrepreneurs que vous côtoyez, qui vous contactent, vous les sentez, c'est quoi leur motivation au départ? C'est vraiment, puis on posera la question à M. Solar, bien sûr, mais vu dans l'ensemble comme ça, est-ce que c'est la volonté d'être autonome, c'est la volonté de vivre une aventure, et est-ce qu'ils ont conscience que, en fin de compte, créer une boîte, essayer justement de essayer la success story, c'est une sacrée aventure?
Alors, je dirais que autonome, certes, en même temps, ce qui a fait la grande différence des PME allemandes par rapport aux PME françaises, c'est que pour les Allemands, l'autonomie ne se résume pas à je suis bien chez moi, je rentre pas dans des réseaux et je communique avec personne. Et surtout, il y a une forme d'entraide entre les grands comptes et les petites entreprises. Alors qu'en France, c'est un peu, on a un peu le sentiment qu'effectivement, on vit un peu caché, on essaye un peu de se préserver de tout un tas de
partenaires. On vit caché ou on n'a pas le choix ? Parce que vous avez dit que les grands groupes, on vit un peu sous la contrainte des grands groupes. C'est vrai que ils ont l'image de toujours pas être sympa avec leur donneur, leur fournisseur ou leur.
Disons qu'il faut savoir un peu ce qu'on veut. Pas sympa. Enfin, je veux dire, ils dépendent. Chacun dépend de l'autre. Hein, c'est la fameuse phrase du Duc Capet qui t'a fait comte, qui t'a fait roi. Je veux dire, chacun dépend l'un de l'autre. Ce que je veux dire, c'est que les entreprises, les petites entreprises, sont un peu chaudés par les conditions qui leur sont faites. Donc aujourd'hui, effectivement, ils cherchent une forme d'autonomie dans leurs produits. C'est pour ça que je fais une différence entre la PME qui est un simple sous-traitant et la PME qui développe des produits propres où là, véritablement, il a la possibilité, j'allais dire juridique, de vendre à qui il veut, alors que quand il est un simple sous-traitant, ben là, il dépend d'un marché. Si je prends le secteur de l'automobile, effectivement, les entreprises qui vont m'appeler demain matin vont en faire grise mine. Si je vous parle d'entreprises qui ont développé des brevets dans le médical, tout va bien. Et tout ira bien encore dans les mois qui viennent. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est très difficile en matière d'économie de faire de grandes généralités entre les entreprises. Vous voyez que déjà, il y a des différences entre une grande entreprise et une petite, mais même au sein des petites, il y a véritablement de grandes diversités entre elles.
On va rentrer dans le détail après. Alors, autre, Philippe Solar, prenez le micro. Prenez Monsieur Deveau. Bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes PDG de Plastexcel. C'est pas facile à dire. Hein,
Plastexcel.
Je me suis pas mal entraîné. Hein, qui fait à la fois de la fabrication, c'est ça, de la plasturgie et du négoce, hein, je crois. Okay, si j'en crois ce que j'ai lu. Alors, vous êtes tombé dans la création d'entreprise et dans l'aventure entrepreneuriale quand vous étiez petit, hein, apparemment.
Jeune. Je suis tombé jeune. Quand j'avais 26 ans.
Oui. En fait, pas très vieux quand même, rassurez-moi.
Je suis un petit peu autodidacte, j'ai une formation technique, j'ai fait un BEP en électrotechnique. J'ai créé une première entreprise en 1996 parce que j'avais 10 ans d'expérience professionnelle au sein des PME de la région et l'entreprise dans laquelle je travaillais a déposé le bilan. Donc je me suis retrouvé sur le marché de l'emploi. Sans avoir de diplôme et en ayant une grande expérience, je revendiquais des postes importants au sein des entreprises. Je ne trouvais pas d'emploi et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Ça a été très difficile parce que j'avais déjà deux enfants, je venais de faire construire. Et donc,
c'est le grand bain là. Hein.
C'est toujours difficile. Et en fait, cette première entreprise était dans le domaine du courant faible, dans la prestation de services. On équipait des sites à haut risque d'alarme et de télésurveillance. Ça a très bien marché pendant 5 ans et je l'ai vendu en 2001 pour créer Plastexcel.
Bonne pioche là.
Hein. Comment ?
Au niveau de l'année, bonne pioche.
Oui. Donc, prestation de service pour entrer dans l'industrie, parce que c'est un rêve d'enfant. J'avais toujours voulu avoir des machines, pouvoir produire. C'était quelque chose qui était au fond de moi. Et on a créé donc Plastexcel en 2001. Ça a été très très difficile. Le monde industriel est très très dur.
À quel niveau il est très dur ?
Il est très dur parce que lorsqu'on construit sans avoir vraiment d'expérience dans le domaine industriel, la première chose qu'on fait, on achète des moyens. On a peut-être une compétence d'un collaborateur et on va construire un produit sans avoir le recul nécessaire que pour produire ce produit, il y a une concurrence qui est effrénée de gens qui ont beaucoup plus de moyens et qui peuvent produire à des coûts moindres. Et donc, il faut arriver à se placer sur le marché, vendre et gagner de l'argent. Et là, ça a été vraiment très dur.
Et comment ça s'est passé ?
Alors, en fait, ça a été très dur. Au bout de quelques mois, on a apporté une première alternative commerciale. J'ai repris mes connaissances de la prestation de service où on travaille énormément sur le produit et sur ce qu'il y a tout autour du produit. C'est-à-dire que dans notre domaine aujourd'hui, on a remarqué que les clients utilisateurs de produits plastiques étaient novices, que le plastique est une matière nouvelle et qu'il y a énormément de plastique aujourd'hui technique haute performance. Et on a commencé à faire de la préconisation matière auprès de nos clients pour apporter un rapport gagnant-gagnant en disant voilà, on vous vend cette matière, mais demain, elle durera deux fois plus longtemps ou vous n'aurez plus la problématique d'usure ou la problématique de glissement. Donc on s'est fait reconnaître comme ça dans un premier temps. Et à partir de 2004, on a commencé vraiment à sortir la tête de l'eau et on a continué à développer ce service autour du client, donc en créant un concept qui était Les clients font du SAV, ils ont besoin de pièces de rechange rapidement, ils consultent les sous-traitants régionaux et en règle générale, les délais souhaités, c'est 3 jours, 4 jours. Et les délais réels, on avait analysé que c'était plus une semaine et demie.
Là,
donc
c'est dur, là, oui.
Là, on est allé un petit peu plus loin. On a qualifié des fournisseurs dans lesquels on a fait stocker des matières, des ébauches prêtes. On a signé des partenariats avec nos clients et mis en place un concept qui s'appelle le concept 100% où on fournit en 72 heures commande à la clé une pièce n'importe où en France.
Alors, sans être trop indiscret, Philippe Solard, quand vous vendez en 2001 votre première boîte, je suppose que vous ne vous perdez pas de l'argent dessus.
Non, gagne de l'argent, mais c'est grâce à ça, ouais, que je crée la deuxième.
J'en ai bien, mais là, vous auriez pu soit vous reposer, soit aller sur quelque chose à pas trop de risques, etc. C'est vrai que la création avec du matériel, des machines, etc., c'est quand même toujours des investissements lourds. Donc, nécessairement plus au risque. Qu'est-ce qui vous motive pour, alors que vous sortez d'une entreprise avec tout ce que ça suppose, vous repartez dans une autre aventure?
Alors en fait,
est-ce qu'à un moment donné, on est calé à la création?
On a démarré le 13 septembre 2001, 2 jours après les événements à New York. Donc le climat était difficile. On crée l'entreprise, on a fait une étude de marché, on croit que l'entreprise va se développer facilement. Et là, tout de suite, on commence à embaucher ses premiers collaborateurs. Et on se retrouve dans un mode projet, c'est-à-dire qu'on apporte du sens à ce qu'on fait, on aide les gens qui viennent travailler, et là, on est dans une spirale sans fin. Si vous faites demi-tour, vous êtes incongru par rapport à ce que vous avez annoncé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire demi-tour. Il faut aller jusqu'au bout. Donc il faut trouver des solutions et prouver à ses collaborateurs qu'on va s'en sortir. C'est ce qu'on a fait.
Oui, mais en même temps, je reviens sur ma question. Vous vendez en 2001, vous recréez, vous n'étiez pas obligé de recréer, enfin, je veux dire, si.
Non, mais
si,
là.
Est-ce que c'était le goût d'entreprendre?
Quand on a goûté l'entrepreneuriat.
Voilà, ce que je voulais savoir.
Lorsqu'on se lève le matin, qu'on est heureux d'aller travailler, qu'on a plein de projets en tête, on a plein de choses en tête, rien que le fait d'aller saluer ses collaborateurs parce que l'entreprise fonctionne bien, après, vous ne pouvez plus.
On peut pas s'en passer.
C'est pas possible de retourner salarié. Ou alors il faut retomber dans une entreprise avec les mêmes valeurs. Et c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe en ce moment. On communique. Aujourd'hui, une entreprise, ce qu'on peut entendre à la radio, on communique sur les entreprises qu'avec leurs résultats et avec, la crise économique et le chômage économique.
Mmh. Oui. On parle que de fric et on voilà. parle pas
Une entreprise, pour moi, c'est des richesses. C'est pas qu'une richesse financière. C'est des richesses de réussite, des richesses de partage, de projets internes, d'évolution de carrière pour les collaborateurs, de faire grandir l'entreprise et les collaborateurs. Et là, ça, malheureusement, aujourd'hui, il y a la crise économique, mais ça n'empêche pas que des entreprises, des PME comme la mienne, évoluent tous les jours. Nous, on est en forte croissance, on a fait 25% cette année, on fait 25% l'année prochaine.
Et déjà
c'est... Oui, c'est, ah ouais. C'est écrit, oui.
Ah ben, joli rayon de soleil dans la grisaille, quand même.
C'est pas un rayon de soleil, c'est la vie des PME qui n'est pas communiquée, à mon sens, auprès des médias.
Ça, c'est la faute des journalistes, carrément. J'ai l'habitude. Bernard Rouilly, bonjour. Alors, vous êtes l'observateur privilégié, comme on dit justement dans les médias. Vous êtes consultant, vous appartenez au groupe, enfin, vous travaillez pour le groupe Adrien Stratégie, qui vous avez en tout conseillé, regardé près de 400 entreprises. Vous êtes, je le dis, cofondateur de l'approche socio-biographique qui est notamment utilisée en stratégie en recrutement. Voilà. Et donc, un peu votre regard, justement, sur... D'abord, est-ce que vous aimez le mot de success story, monsieur Rouilly?
D'abord, parce que... oui et non. Oui et non. Oui, parce que ça parle et que les gens savent ce que c'est. Et non, pour ce que ça signifie, parce que la réussite et tous ceux que j'ai rencontrés qui sont sur le chemin de la... On ne sait jamais quand on a réussi, ou peut-être au dernier moment. Donc c'est toujours un peu difficile. Bon, j'aime sans aimer, mais par contre, quand je vois les gens aussi jeunes, je me dis, nous, on fait ce métier de stratégie sur des concepts qui sont quelquefois abstraits, sur des représentations, et donc ce serait un petit peu difficile de vous en parler. Il y a une chose quand même que je peut dire sur l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas une recette. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde se dit, si je savais la recette de la réussite, je pourrais l'appliquer. Alors, on a vu plein de bouquins que vous avez dû avoir sur les entreprises qui gagnent. Et alors, au fur et à mesure du temps, parce que je suis assez âgé, vous avez peut-être remarqué, j'en ai vu. J'en ai vu des recettes qui ont sombré, ça marche pas. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est dans son époque et à chaque époque correspondent des critères de marché différents. Donc ça, c'est une première chose. J'ai jamais observé de recette. Et je reviendrai sur quelque chose qu'a dit monsieur tout à l'heure, qui m'a beaucoup frappé dans l'entreprise. J'ai beaucoup interviewé des patrons d'entreprise, de petites et même quelquefois de très gros, de ceux de ces gens dont on avait dit qu'ils avaient fait une réussite spectaculaire. Il y a une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est que l'argent n'a pas été le moteur. On ne fait pas de l'entreprise pour gagner de l'argent, je dis souvent, ou alors c'est très, très, très sympathique de dîner avec des copains, avec du vin rouge, pour demander comment on va pouvoir gagner de l'argent. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'argent n'a pas été le moteur. Rarement, je n'ai vu quelqu'un qui a créé une entreprise parce qu'il voulait devenir riche. C'était pas le moteur. Le moteur, c'était plutôt parce qu'il voulait vivre un projet qui lui était personnel, quelque part. Et puis, il y a aussi autre chose que je voudrais dire, c'est que les gens d'entreprise réfléchissent pas, ils agissent d'abord. Ce matin, je regardais la définition d'entreprendre, c'est faire passer une idée en action. Les gens d'entreprise, ils savent souvent ce qu'ils ont fait quand ils regardent en arrière, quoi. C'est-à-dire qu'ils font. Ils font, et donc ils sont pas constamment dans la réflexion, non mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et ça nous a porté, nous, sur une idée, un concept que, en général, ce qu'on appelle les savoir-faire, pour que vous compreniez bien, quand vous conduisez tous, tant que vous réfléchissez à la façon dont vous allez conduire, vous ne conduisez pas bien. Hein, vous ne conduisez pas bien. Et vous conduisez bien le jour où vous ne réfléchissez plus à la façon dont vous allez conduire, c'est le pied sur l'embrayage, etc. Et un savoir-faire, c'est quelque chose qu'on peut faire sans réfléchir. Alors un chef d'entreprise, il a souvent beaucoup de savoir-faire comme ça, qui sont spontanés chez lui, et qu'il n'a pas forcément appris dans l'école, qu'il n'a pas, mais il fait, parce que c'est comme ça.
Effectivement, en fait, on peut dire qu'un entrepreneur est un homme d'action, et seulement après est un homme de pensée, c'est-à-dire qu'il réfléchit en règle générale une fois qu'il a les pieds dans l'eau.
Et quand il est dans le doute, il fait appel aux consultants.
Merci. Ah ouais, d'accord, ouais.
Qui eux savent réfléchir et qui savent très bien réfléchir. J'ai souvent dit d'ailleurs que j'avais fait ce métier parce que dès l'adolescence, j'étais d'une inefficacité totale. Et donc le premier sujet de réflexion que j'ai eu, c'est l'efficacité, puisque j'étais complètement inefficace. Et donc j'ai fait un métier de l'efficacité des autres, quoi. Et moi je réfléchis pour les autres, mais c'est toute la différence entre les gens qui réfléchissent. Le chef d'entreprise, il agit d'abord et avant tout.
Bernard Rouilly, est-ce qu'il y a des...
Si je peux me permettre.
Oui, monsieur Solar.
En fait, on parlait de richesse tout à l'heure, par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur. Effectivement, un entrepreneur, c'est un homme d'action. Et en fait, toute la richesse d'une entreprise, c'est de s'entourer d'un homme de pensée, c'est-à-dire... un deuxième homme à côté de vous, et lorsque vous travaillez ensemble, lui vous freine ou vous fait accélérer, parce qu'en fait, il pense avant vous.
Merci.
Est-ce que Bernard, est-ce que au cours de tous les cas que vous avez vus, est-ce qu'il y a eu nécessairement des cas, et comment vous les avez, quel regard vous portez dessus, de gens qui ont monté leur boîte, qui ont à un moment donné ont eu un creux de vague, et puis sont repartis, et aujourd'hui on dit quel success story, parce qu'il faut aussi dire quand même que, comme disait Jean-Damien Pau, c'est pas le monde des bisounours, et on est loin du long fleuve tranquille. Alors est-ce qu'il y a, là aussi, est-ce qu'il y a par exemple des caractéristiques qui fait que quelqu'un peut rebondir, par exemple?
Oui, il y en a, ça s'est trouvé. Alors, il s'est trouvé que dans notre métier, on a aidé quelques entreprises à rebondir, oui. Dieu merci. Je vous citais un cas, puis mon voisin d'ici était choqué par ce cas, mais si vous connaissez un rebondissement magnifique, parce que tous vous êtes, c'est Apple. Apple, société New Age, qui a lancé l'ordinateur, qui est tombé au creux de la vague à un moment au point qu'on se demandait s'ils allaient durer. Jobs qui reprend la direction d'Apple, et Apple, dont vous avez tous les iPods, et qui aujourd'hui est un succès. Donc c'est un cas un peu général que les jeunes peuvent comprendre, ou Converse aussi, qui vieille entreprise, inconnue, et puis tout d'un coup est reparti grâce à la mode, et à vous-même d'ailleurs souvent.
Oui, mais il y a d'autres cas de PME où ça a été le cas, je pense, par exemple. Je sais pas,
oui, après, c'est fréquent. Votre question me gêne parce que c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés à un moment donné parce que... Alors, il faudrait là que j'explique pourquoi est la difficulté. Hein, quelle est la difficulté de l'entreprise? D'abord, parce qu'on va parler du chef d'entreprise. Bon, le chef d'entreprise, contrairement à ce qu'on pense, je dis souvent d'ailleurs l'image que tous les gens en avaient autrefois, c'est un peu comme celle du commercial, un monsieur sûr de lui, confiant, plein de savoir et qui était, au fond, l'image pendant très longtemps qu'on a eu du chef d'entreprise, c'est l'image du patron. Le patron qui casse, qui tranche, qui fait... Or, les chefs d'entreprise que j'ai rencontrés, surtout dans les PME, sont des gens qui sont souvent des gens d'action, mais pas du tout comme on pourrait l'imaginer, avec une confiance éperdue en eux, etc. Et donc, il y a autant de chefs d'entreprise qu'il y a d'entreprises, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que ce sont des gens d'une sensibilité extrême. Ils sont sensibles... qui sont sensibles aux doutes, qui sont très affectifs, très souvent très affectifs, qui ont des drames personnels dans l'entreprise, et qui connaissent avec l'entreprise ces drames personnels. Le drame le plus terrible que puisse connaître un chef d'entreprise, c'est effectivement quand le chiffre baisse et qu'il est en face du licenciement. Et en général, contrairement à ce que vous avez reçu, tous les chefs d'entreprise vivent ça abominablement mal. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit partout, un chef d'entreprise qui est devant des problèmes sociaux, il le vit abominablement mal, quelle que soit la taille de sa structure. Je n'ai rarement rencontré quelqu'un qui le vivait avec indifférence. C'est très difficile. Il préfère évidemment le succès. Alors, relancer une entreprise, c'est toujours compliqué parce que l'entreprise, elle surfe sur quelque chose que nous appelons, on appelle ça les courants porteurs. C'est-à-dire que l'entreprise, elle est dans la société. Elle est dans la société et elle a un rapport avec cette société dans laquelle elle vit. Et elle doit tout le temps être adaptée avec cette société. Mais cette société est impitoyable. Vous, les consommateurs, vous, les jeunes, vous êtes impitoyables. Et quelquefois, l'entreprise se trouve quelque part dans une situation extrêmement difficile par rapport à cette société. Et donc, il nous est arrivé de relancer. Je vais prendre un exemple. J'ai connu un chef d'entreprise qui faisait de l'édition publicitaire. L'édition publicitaire, c'est vraiment le... Je dirais à l'extrême, c'est un métier intelligent, puis en même temps un métier de con, parce que vous êtes sur un univers concurrentiel où tout le monde peut en faire. Donc, il faisait de la mode, il faisait tout. Et il était en difficulté, parce que quand vous faites des choses que tout le monde peut faire, forcément que la concurrence, il y a ce qu'on appelle une pression sur les prix.
Tôt ou tard, il y en a un qui fait moins cher, oui.
Bah forcément. C'est-à-dire que donc, les prix d'année en année, les prix étaient de moins en moins bons, les marges de moins en moins bons. On trouvait encore des clients, mais on gagnait plus d'argent. Et à ce moment-là, nous consultons, on regarde dans le catalogue de ses produits, et on découvre qu'il y avait une espèce de mine d'or dans son catalogue qui était les invitations aux assemblées générales des sociétés du CAC 40, qu'il détenait dans un coin et qu'il ne mangeait pas de pain. Et donc on lui dit, c'est intéressant, là vous gagnez de l'argent et sans difficulté, et si vous rétrécissiez les champs de vote possible sur l'information financière? Alors il a dit, ah oui, mais alors il va falloir que je... sacrifie bien des branches dans mon entreprise, ça va être terrible, parce que c'est ça le problème dans l'entreprise. C'est quand ça va pas bien, il y en a qui préféraient que ça dure toujours, et il faut pourtant sacrifier des branches de l'entreprise, et ça me pose des problèmes. Alors on lui a fait une démonstration mathématique en lui disant, ça vous coûtera un million d'euros ou 2 millions d'euros de sacrifier ces branches, mais vous les regagnerez plus vite sur le marché de l'information financière. Et effectivement, maintenant, il est leader français de l'information financière, et c'est un des clients qui nous bénit.